soir. Comme je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, maintenant ça se précise, puisque c'est la semaine prochaine, le jeudi 28, ici même, que Madame Dominique Hernandez, pasteur de l'Église protestante unie à Palaiseau, nous entretiendra de Jean XIII ou l'amour à l'extrême. C'est même déjà un sous-titre, le titre de l'élévation des disciples, Jean XIII ou l'amour à l'extrême. Et alors nous verrons un petit peu, mais éventuellement ces prolongements dans le discours de la scène de Jean 14 à 16. Et donc il est prévu aussi qu'il y ait un peu de questions-réponses à la fin de la séance. À quoi tient cette personne qui est devenue une amie? Donc je crois j'ai affiché cette séance sur le panneau du premier cycle et donc je vous invite ainsi que toutes les personnes intéressées à vous joindre à nous pour cette séance. Alors ça me force à terminer aujourd'hui. Ça, c'est les impératifs des invitations. Quand on invite quelqu'un pour un chapitre, il faut essayer d'avoir fait ce qu'on devait faire avant le chapitre en question. Et vous avez vu, donc, on vous a proposé une documentation assez imposante, mais j'essaierai au moins de pointer les aspects qui me semblent les plus importants de ce qui nous reste à voir avant donc le chapitre 13, qui ouvre la deuxième grande partie de l'Évangile. Nous en étions donc au chapitre 8, qui, comme dirait M. de la Palice, suit le chapitre 7. Ce sont les deux chapitres réputés pour être pratiquement les plus difficiles, parce que ce sont des chapitres de controverses. Mais voilà, ce qui me semble vraiment important à rappeler avant de continuer notre lecture de Jean 8, c'est que ces procès, parce que nous entrons vraiment dans des textes marqués par le vocabulaire, nous allons encore le voir sur le chapitre 8, juridique du procès, qui donne une note très importante à l'ensemble du texte, à la condition que l'on n'oublie pas que c'est le procès dans l'alliance et une alliance déjà conclue avec le chapitre 6, qui conclut donc la première section avec ses allées et venues de Jésus du sud au nord, du nord au sud, et où nous avons vu en quelque sorte Jésus, dans son corps, dans sa parole, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, chercher à ramener dans l'unité les enfants de Dieu dispersés d'abord sur la terre des promesses. On a trop souvent parlé d'un procès cosmique dans le quatrième évangile, en ne le rattachant pas suffisamment à l'Ancien Testament. Et donc, l'Ancien Testament nous apprend que le procès qui est le genre littéraire souverain de la littérature prophétique n'existe qu'en contexte d'alliance. Et c'est ça le paradoxe que le quatrième évangile, et peut-être même le corpus johannique tout entier, ne cesse de relever. C'est au moment où s'accomplit le don qu'il est le plus mise en question. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, par exemple, l'Apocalypse va déployer le paradoxe d'un temps de persécution sur l'arrière-fond du salut assuré par Jésus-Christ mort et ressuscité. Loin de mettre les chrétiens à l'abri de toutes sortes de tensions, au nom de leur foi et au nom du Christ, au contraire, cela les plonge dans ce que Jésus lui-même a vécu, parce que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Voilà la grande idée, qui va d'ailleurs être reprise explicitement au centre du chapitre 13, comme nous allons le voir la semaine prochaine. Et par exemple aussi, dans les épîtres et dans la première épître, la grande épître de Jean, tout ce qui est dit est d'une manière absolument unique dans la littérature universelle sur Dieu amour, retentit sur fond de grosses tensions internes à la communauté avec des hérésies qui se lèvent, et en particulier inspirées par la gnose. Donc, le paradoxe de la foi. Jésus a guéri et il est condamné à mort parce qu'il guérit le jour du sabbat. Il essaye une première fois de se disculper de ses deux chefs d'accusation. Il se fait lui-même Dieu. Il se dit lui-même Dieu. Donc il blasphème, il tombe dans l'idolâtrie caractérisée et il viole le sabbat. Donc son sort est joué. Il ne parvient pas à se disculper et dans ce contexte déjà extrêmement tourmenté, qui ne cesse d'anticiper la troisième Pâque, la deuxième Pâque au bord du lac de Tibériade lui fait accomplir l'alliance dans ce contexte d'opposition. Et nous avons vu la dernière fois, et cela m'est apparu plus que jamais en travaillant l'Évangile cette année, ce que le quatrième évangéliste veut dire de l'Eucharistie, il le dit lors de la seconde Pâque, en contexte d'endurcissement des disciples, parce que c'est par là que se conclut aussi paradoxalement le discours sur le pain de la vie. Ces paroles sont dures, disent la majorité des disciples qui s'en vont, qui ne marchent plus avec lui, dit le texte, n'est-ce pas ? Et donc, une fois redescendu du nord à Jérusalem, où d'ailleurs ses frères lui essayaient de dissuader Jésus de le faire, parce qu'enfin il risque de se jeter, comme nous disions, dans la gueule du loup. Non, il redescend à Jérusalem, et donc premier grand discours de controverse, en contexte de procès, Jésus essaye de justifier sa caractéristique de Christ d'Israël. Ça ne marche pas trop. Et maintenant, donc, dans le chapitre 8, la controverse se prolonge et ce n'est plus tellement la question du Fils à reconnaître comme Christ qui est central. Ce qui est central, c'est de savoir de qui ce Christ et de qui les croyants qui se réclament de lui sont les enfants. Et c'est ce qui fait que j'ai intitulé donc notre chapitre 8, d'abord « Jésus qui ne condamne pas est condamné », mais dans un conflit des paternités. Donc, la question, c'est de savoir de qui l'on est enfant, qui est le père. C'est lié, qui est le fils, c'est le Christ, mais c'est loin d'être admis, et il n'y a pas de fils sans père, donc qui est le père? De qui est-on le fils ou la fille? Je reviens brièvement sur la péricope de la femme adultère, comme l'on dit habituellement, pour simplement donc réaffirmer ce que je viens de pointer. Nous sommes d'emblée plongés en contexte de procès. Mais, cependant, encore une fois, l'auteur est très... Tous les détails sont importants, n'est-ce pas ? La première chose, c'est que Jésus se présenta vers le temple et tout le peuple venait auprès de lui. Donc, on ne cesse de vous suggérer qu'il y a un mouvement d'engouement positif de beaucoup de personnes après Jésus. Et s'étant installé, il les enseignait. C'est aussi ce qui permet de délimiter cette péricope en y incluant la péricope de la femme adultère au verset 20. Ces mots, il les adressa dans le trésor en enseignant dans le temple et personne ne l'arrêta. C'est aussi un verbe l'arrestation, un verbe qui a trait au vocabulaire du procès, n'est-ce pas, du verdict, parce que n'était pas encore venu son heure. Donc, quand même, de nouveau, enseignement, et le terme a un caractère aussi technique, hein. C'est ce qui incluait les extrémités, c'est ce qui incluait le discours sur le pain de la vie, c'était son enseignement dans la synagogue de Capharnaüm, c'est sa Torah. Donc Jésus mis aussi en position de prêtre, de médiateur, parce qu'il est le Fils, ça ne peut pas être autrement. Et ici, de nouveau, donc, la note est d'abord positive, mais aussitôt, le climat s'alourdit et donc ils amènent les scribes et les pharisiens, une femme littéralement sur adultère saisie, et l'ayant tenue au milieu, ils lui disent « Maître, cette femme a été saisie en flagrant délit s'adultérant ». Voilà le chef d'accusation. Le monde aura remarqué qu'il n'est pas question de l'autre partenaire. En général, dans la littérature de l'Ancien Testament et du judaïsme, il faut reconnaître, parfois aussi dans notre Sainte Église, n'est-ce pas, que l'homme est toujours en position plutôt favorisée et que la pauvre, là, elle est toute seule à essayer de se situé par rapport à ce contexte de mise en accusation extrêmement humiliante. Dans la loi, Moïse nous commanda de telles femmes de les lapider. Toi donc, que dis-tu? Et vous voyez donc le vocabulaire, l'adultère, prise en flagrant délit, la loi, Moïse nous commanda, le vocabulaire de la loi et de ce qui est contraire à la loi, donc ce qui est en quelque sorte infraction susceptible de mettre en procès. Ceci, il le disait en l'éprouvant, hein, c'est souvent une mise à l'épreuve, quand lui-même Jésus ne met pas à l'épreuve ses disciples, comme on l'a vu au chapitre 6, mais qu'ils aient à l'accuser. Et on voit que le vocabulaire se précise, hein, c'est un vocabulaire très rigoureux, hein, à ne jamais confondre, justement, parfois les traductions ne sont pas assez rigoureuses. Ici, vous avez vraiment accusé, catégorein, hein, qui est en général mis au compte de l'accusateur. Dans le quatrième évangile, il n'y a qu'un grand accusateur, c'est le Satanas. Nous verrons ça aussi au chapitre 13. Et c'est vrai pour toute la Bible. Donc, dès qu'il y a quelque part une accusation, il faut toujours faire attention parce qu'on risque d'être manipulé par l'accusateur. Jésus, en bas, s'étant penché, du doigt dessinait vers la terre. On épiloguera jusqu'à la fin des temps sur ce qu'il aura pu écrire. C'est la seule chose dont on sache qu'il ait pu écrire. Et encore, c'est le verbe catagraphein qui est utilisé, certains comme Marie Balmary et d'autres qui s'intéressent à cette scène ont remarqué que c'était un verbe en grec qui renvoie dans l'Ancien Testament à la gravure de la loi sur les tables de la loi. Mais je pense qu'il ne faut jamais non plus trop, comment dire, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, pour vous le dire franchement. Mais donc, voilà, son geste est éloquent. D'abord, il ne dit rien, hein, et son geste parle. C'est comme s'il veut, en quelque sorte, s'abstraire de cette situation très embarrassante, d'abord pour la personne qui est ainsi mise en accusation. Et vous voyez aussi que l'accusé, le présent, le complément de ce verbe, c'est d'abord Jésus. Hein ? Donc, elle est mise en état d'accusation, mais c'est pour lui, hein, le mettre éventuellement en état d'accusation d'après la réaction qu'il adopte. comme il persistait en l'interrogeant, donc c'est aussi un verbe qui fait partie du vocabulaire de l'interrogatoire, il se redressa, ça c'est quand même souvent, on verra ça aussi au lavement des pieds, au chapitre 13, hein, une sorte de travelling avant en langage cinématographique, n'est-ce pas, sur des gestes qui sont vraiment pris très, très au détail. Et il leur dit, celui qui est sans péché parmi vous, le premier, sur elle, qu'il jette une pierre. Donc le verbe de la lapidation était arrivé en défaveur de la femme au verset 5, et donc, celui qui est sans péché, le premier sur elle, qu'il jette une pierre. Alors voyez, moi je me dis vraiment, vous laissez tomber ce texte de l'Évangile, vous le jetez dans le panier, qu'est-ce qu'on perd? C'est unique, n'est-ce pas, et justement, je crois que ça a mis dans l'embarras les premiers chrétiens, et en particulier dans leur dialogue avec les juifs. Enfin, est-ce que, voilà, on ne sera pas pris pour des laxistes par rapport à la loi, n'est-ce pas? Or, non, il y a là quelque chose de la nouveauté du Christ qui éclate, n'est-ce pas? Quelqu'un comme René Girard a analysé ces textes, justement, du point de vue de la violence mimétique. Que se serait-il passé s'il avait lui-même jeté la première pierre? Ça aurait déchaîné un mouvement, n'est-ce pas, de lapidation générale, il enrait la spirale de la violence, en gestes et en paroles. Et au fond, comme on le dira encore plus loin, n'est-ce pas, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est-à-dire il faut quand même faire droit à ce que cela suppose comme lucidité, comme sang-froid, comme bon sens pour réagir en ces termes dans une situation particulièrement embarrassante. Et de nouveau, s'étant penché, il écrivait vers la terre. C'est un autre verbe. Ce n'est plus katagraphein, qu'on peut traduire par dessiner ou graver. C'est tout simplement graphein. Donc voilà, seule chose qu'il est écrite, ce sont ces signes, on ne sait pas exactement quoi, sur la terre. Par contre, la terre est intéressante. Hein. C'est comme si il confiait ses dispositions à la terre-mère. L'ayant entendu se retirait un à un, ayant commencé à partir des plus vieux. Alors, j'ai lu encore récemment des contributions sur ce texte. Ça ne veut pas dire, me semble-t-il, parce que certains interprètent cela dans ce sens-là, que tous les habitants de Jérusalem seraient des adultères. Non, ce serait un peu fort quand même. Mais ce serait répliquer à la violence par la violence, c'est-à-dire ça serait mettre au compte de l'écrivain une sorte de revanche par rapport, disons, à ses partenaires juifs. Je crois que c'est ça qu'il faut précisément éviter. Non, ils se reconnaissent tous pécheurs, que celui qui n'a pas de péché lui lance la première pierre. Voilà. Ça, c'est quand même tout à fait remarquable. C'est pas à propos d'un péché particulier qu'il s'agit, c'est celui qui est sans péché, sans autre détermination, parmi vous, le premier sur elle, qu'il jette une pierre. Et il fut laissé seul, et la femme, au milieu de nouveau, n'est-ce pas, l'expression avait déjà été utilisée, je l'ai mise aussi en évidence par des espacements au verset 3 et au verset 9. Elle est au milieu, en position d'accusation d'abord, et puis en position, au contraire, de non-condamnation ensuite. S'étant redressée, donc c'est le deuxième mouvement, hein, après deux mouvements d'abaissement, hein, quelque chose qui, symboliquement, rappelle un peu le mouvement de la kénose dans Paul, n'est-ce pas, le premier épître, l'hymne des Philippiens, s'étant abaissé, il s'abaissa plus encore. Hein, bon. S'étant redressé, Jésus lui dit ce qu'il avait dit à la maman, ce qu'il avait dit ensuite à la Samaritaine, il le dit maintenant à cet adultère, femme, gunaï. Où sont-ils? Personne ne te condamna. Et condamner est encore plus fort que accuser. Hein? Accuser catégorein, condamner catacrinein. Juger contre, en défaveur de. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, hein, je traduis, mets-toi à aller pour rendre le présent, hein, c'est une actualisation dans le texte, n'est-ce pas? Et à partir de maintenant, ne pêche plus. Donc, voilà ce qui est quand même génial dans cette scène, n'est-ce pas? Et que personnellement, je ne me résous absolument pas à exclure du corpus de l'Évangile. Et cela anticipe beaucoup de choses qui vont aller dans le même sens par la suite. Aucune complaisance à l'égard du péché, mais miséricorde absolue à l'égard du pécheur ou de la personne qui peut être prise en délit de péché. Ça, c'est capital. Et je trouve qu'en général, l'exégèse johannique pêche par manque de prise en compte de ce qui est un héritage prophétique, n'est-ce pas ? En particulier des formules chez Ézéchiel qui reviennent encore dans la formule longue de l'absolution catholique du concile. Je ne suis pas venu pour condamner le pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est un refrain des prophètes, n'est-ce pas ? Et je vous ai rappelé la double composante de tout jugement dans la Bible, et en particulier chez les prophètes, jugement de condamnation par rapport au mal, ah oui, parce que le péché détruit la créature. Donc le créateur va tout faire pour, disons, éviter cette autodestruction de sa créature par le péché. Jugement de condamnation du péché, jugement de salut pour le pécheur, universel, pour tous. Et alors, vous voyez, c'est cela que je considère le contenu de l'expression utilisée maintenant et qui va encore revenir dans le même contexte de procès, n'est-ce pas, au chapitre 9 et 10, « Moi, je suis la lumière du monde ». Je trouve très important de voir que la scène, le récit qui précède, éclaire de ce fait de tous ces feux le discours plus abstrait qui suit. Hein, il y a une sorte de support visuel qui permet de comprendre ce que des propos plus abstraits vont développer. Par après, moi je suis la lumière du monde, en tant précisément que je ne condamne personne. Celui qui me suit ne marchera sûrement pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Et donc ceci est une parole du Logos de l'origine, ne l'oublions jamais, avec la lumière du monde, avec la vie. Avec le rapport entre lumière et ténèbres, nous sommes renvoyés au début du prologue qui condense, nous l'avions vu, non seulement tout le prologue, mais tout l'évangile, en montrant à quel point la vie et la lumière sont définitivement premières par rapport à tout ce qui pourrait être de l'ordre de la mort ou de la ténèbre, qui arrive toujours trop tard. Toi, au sujet de toi-même, tu témoignes. Alors, voilà un bon exemple, mais enfin, c'est ce que nous avions déjà vu à propos de Jean, dès le prologue hymnique et dès le prologue narratif, le témoignage, ça dépasse ce que l'on entendrait spontanément par un témoin aujourd'hui, peut-être, n'est-ce pas ? Mais c'est toujours un témoignage dans un procès. Et ici, c'est vraiment le cas. Tu témoignes au sujet de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Même si je témoigne au sujet de moi-même, il est vrai mon témoignage, parce que je sais d'où je viens et où je pars. Donc voilà, de nouveau, hein, rappel de ce mouvement souvent spatial. Le Père Nola avait bien étudié la symbolique spatiale dans le quatrième évangile. Il vient du Père et il va au Père. Et c'est le Père qui témoigne en sa faveur. Vous ne savez pas d'où je viens et où je pars. Vous, selon la chair, vous jugez. Et voilà le verbe krinein, qu'il ne faut pas traduire par condamner, justement, ça ce serait katakrinein. Vous jugez. Moi, je ne juge personne. Ça a été déjà dit dès les premiers propos dans le dialogue avec Nicodème au chapitre 3. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Si je juge, moi, le jugement, le mien est véritable, parce que je ne suis pas seul, mais moi et le Père. Ça suppose vraiment, quand même, d'abord, la mise en œuvre de la créativité de l'évangéliste. Moi, je ne sais pas ce que Jésus a dit. Hein? Mais ce que l'évangéliste veut nous faire comprendre, c'est précisément que ce témoignage tout à fait particulier du Fils lui vient de l'autorité de sa mission par rapport au Père. Alors, bon, on dit, voilà, la séparation avec les Juifs est faite parce qu'il parle de leur loi. Hein. Dans la loi aussi, la vôtre, il a été écrit que de deux hommes, le témoignage est vrai. C'est en effet surprenant que Jésus, comme Juif, s'adresse à ses partenaires juifs en leur disant « votre loi ». Ben oui, mais justement, c'est que le contexte montre très bien qu'il y a loi et loi, et que il faut bien se servir du bon emploi, du bon usage de la loi. Sinon, eh bien, elle sert à condamner. Et c'est quand même si souvent le cas. Dans la loi, la vôtre, il a été écrit que de deux hommes le témoignage est vrai. Alors, ce n'est pas exactement de deux hommes qu'il s'agit ici, mais Jésus revendique la véracité de son témoignage au nom même du fait qu'il ne fait rien de lui-même. Ça va très loin aussi. Et il se présente donc vraiment comme celui qui reste, vous voyez, dans la loi du Père, en appliquant la loi tout en étant docile à la volonté du Père. C'est ça le point. Hein. Sans cela, la loi risque de mal être situé et de jouer des effets pervers. Où est-il ton père? Ni moi vous ne savez, ni mon père. Si vous me saviez, moi, mon père aussi, vous le sauriez. Et donc, première grande section de ce chapitre 8, donc conclusion, dans le trésor, en enseignant dans le temple, personne ne l'arrêta, parce que n'était pas encore venue son heure. Et on retrouve si souvent aussi l'articulation entre l'espace, hein, d'où il vient, où il part, c'est le Père, et nous sommes maintenant en attente d'une heure qui n'est pas encore venue, même si elle a commencé à arriver à Cana de la Galilée. Deuxième panneau de ce chapitre 8, versets 21 à 30. Donc, moi je pars et vous me chercherez, et dans votre péché vous mourrez, ou moi je pars, vous ne pouvez pas aller. Incompréhension caractérisée, hein, il dit les choses à un niveau, elles sont comprises à un autre. Il ne se tuera tout de même pas qu'il dit « là où moi je pars, vous ne pouvez pas aller hein ». Et pour anticiper déjà ce que nous verrons la semaine prochaine dans le chapitre 13, Jésus va redire cela après avoir donné le don du commandement nouveau aux disciples eux-mêmes à la scène. Et Pierre se récriera « Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller hein ?» Bon, je n'anticipe pas davantage, mais enfin, il y a une grande unité, grande cohérence dans l'ensemble des développements. Vous, des choses d'en bas, vous êtes, moi, des choses d'en haut, je suis. Vous, de ce monde-ci, vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde-ci. À ne pas comprendre de manière dualiste, mais enfin voilà bien un verset qui prête le flanc à ce que l'on a appelé à tort le dualisme johannique, opposition apparemment flagrante entre haut et bas. Le verset 25, justement, va nous éclairer en nous rappelant, mais par-delà le centre du verset 24 que je ne peux pas éluder, « Toi qui es-tu le commencement ?» Si Jésus, depuis le prologue hymnique, est en position de commencement, d'origine absolue de tout, par rapport à quoi alors il peut y avoir réaction contrastée de lumière et de ténèbres, nous ne sommes pas dans un dualisme. Nous sommes, comme dirait, comme a pu le dire Balthazar en réaction contre Bultmann, qui est quand même le grand théologien réformé qui a lancé l'idée, enfin luthérien plutôt, n'est-ce pas, le dualisme johannique, ça remonte à l'exégèse bultmannienne qui a fait florès dans les années, finalement tout au long deuxième grande moitié du XXe siècle. Nous ne sommes pas dans un dualisme, nous sommes dans un monisme. C'est-à-dire, tout est à l'enseigne de l'un. Ça va se développer progressivement, mais le Fils et le Père sont un, et à partir alors de la manière dont dans l'humanité on se situe par rapport à l'eux, alors il peut y avoir contraste, mais pas opposition duelle. Mais malgré tout, là, il ne faut pas se donner la vie facile dans la lecture. Le verset 24, qui est au centre de cette deuxième phase du procès de Jean 8, « Je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et donc, je dis, n'est-ce pas, il s'adresse à des Juifs. Mais il pourrait s'adresser à n'importe qui, n'est-ce pas, des Esquimaux, les habitants de la Terre de Feu, de l'Amérique latine ou de l'Afrique, n'est-ce pas? Il est la parole qui vient dans le monde et, disons, la lumière qu'il apporte, c'est de ne condamner personne, mais si on veut l'exclure, lui, en geste d'incrédulité, alors là, il y a le seul péché qui soit. Pour le quatrième évangile, pour le corpus johannique, il n'y a qu'un péché, et c'est une réalité spirituelle, ni psychique, ni morale, c'est de ne pas croire. Vous vous situez par rapport à lui selon le croire et vous avez la vie, vous n'y croyez pas, et vous vous exposez à la mort, qui est d'abord la mort spirituelle. De ne pas vivre la vie de Dieu, la vie des engendrés de Dieu, comme cela nous a été défini dès le prologue. Et ceci s'adresse évidemment autant aux chrétiens qu'aux juifs, je ne cesse de le répéter, n'est-ce pas? Tout lecteur, toute lectrice de l'évangile a à se situer par rapport à cela, et seul Jésus, et l'évangéliste le dit assez clairement, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas passer à côté, peut dire cela. Moi je suis. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Avec, disons, un tranchant, oui, qui est propre au quatrième évangile, mais qui n'est pas un tranchant désespérant. Il donne la clé de la vie en dénonçant le lieu par excellence de la mort. Et donc, ce qui est remarquable, et ça va s'approfondir progressivement dans le cadre même du chapitre 8, n'est-ce pas? Dénoncer le péché, c'est encore faire œuvre de miséricorde. Mais seul Dieu peut le faire, et son Fils. Parce que, en le dénonçant, il s'offre lui-même comme lieu de conversion possible. Illico, dans le même acte où le péché est dénoncé, la manière d'en sortir est clairement énoncé également, croire qu'il est, croire que je suis. Alors voilà, moi je suis, toi qui es-tu? C'est la bonne question. Hein? Et encore une fois, il faut suivre la logique à la fois intellectuelle et spirituelle du dialogue, parce qu'il va jusqu'au fond des choses. Et il leur dit Jésus, texte extrêmement commenté depuis la patristique latine et grecque, n'est-ce pas ? Je ne vous dis pas toutes les traductions possibles, vous pourrez les retrouver dans n'importe quel commentaire. Je choisis la traduction qui me semble la meilleure et qui est celle d'Augustin. Dans un contexte où nous avons vu réaffleurer plusieurs fois avec la vie, avec la lumière du monde, avec l'incrédulité, avec le croire, le prologue hymnique, il rappelle qu'il est le commencement. Au commencement, il y a la parole. Oh, il leur dit Jésus, le commencement, ce que je vous adresse. Beaucoup à votre sujet, j'ai à adresser et à juger, mais celui qui me manda est vrai, et moi ce que j'entendis d'auprès de lui, ces choses, je les adresse au monde. Ils ne connurent pas que le Père, il leur disait, parce qu'il parle du milieu de l'identité qu'il est comme parole de l'origine. Et ce n'est facile à comprendre pour personne. Alors voyez ce qui est remarquable dans ce développement, c'est aussi de nouveau ce qui est constant, et encore plus dans l'Apocalypse que dans l'Évangile, le rapport entre l'origine et la fin. Il vient à peine de rappeler qu'il est le commencement, qu'il fait allusion au Fils de l'homme à la fin. Hein? Et nous avons donc une sorte de mise en rapport de l'alpha et de l'oméga, du commencement et de la fin. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis. Enfin oui, vous connaîtrez... Nous avons à le reconnaître sans cesse, enfin, révélation de Dieu sur le lieu même du supplice injuste de la croix, il faut quand même le faire, n'est-ce pas ? Vous connaîtrez que moi je suis, qu'à partir de moi-même je ne fais rien, mais comme m'enseigna le Père, ces choses je les adresse. Et celui qui me manda avec moi, il est, il ne me laissa pas seul. C'est exactement comme ça que va se conclure le discours de la scène aussi. Vous me laisserez seul, dit-il aux disciples, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. 16, 33. Moi, les choses qui lui sont agréables, je les fais toujours, ces choses lui les adressant. Beaucoup crurent en lui. Capital. C'est quand même impressionnant. Voilà. On serait toujours tenté de croire que ces chapitres 7 et 8 se terminent mal. Ah, ils ne se terminent pas bien. Mais... il faut faire attention à toutes les nuances. Beaucoup crurent en lui. De nouveau, n'est-ce pas ? Il y a continuellement dans ces chapitres de controverses des allusions à un mouvement populaire en sa faveur. Mais il y a croire et croire. Cependant, ici, l'expression la plus forte est employée. Beaucoup crurent en lui. En lui. Alors, à ne pas non plus louper, n'est-ce pas ? Verset 31. C'est la préricope centrale de tout le chapitre. Il disait donc Jésus en direction des Juifs qui croyaient en lui, qui croyaient à lui, pardon. Hein? Et voilà. Donc, alors, des Juifs. Là, j'étais impressionné en reconsultant la nouvelle traduction de la Tob. Là, on ne peut plus parler simplement des autorités juives. Hein? C'est les Juifs. Donc. Mais ce serait n'importe quel autre peuple où la parole se ferait chère. Voilà. Et ce que dit le verset 31, c'est que ces versets qui vont maintenant creuser, n'est-ce pas, la qualité du croire, s'adressent, grosso modo, à la limite, à des chrétiens. C'est pas d'abord des juifs, il est question, n'est-ce pas. Ce sont des juifs qui croient à lui, mais... Voilà, il y a une manière de croire à lui qui est peut-être encore pire que de ne pas croire du tout. Hein? Vous savez, dans nos sociétés dites chrétiennes, déchristianisées, sécularisées, il y a des choses à entendre là. C'est si souvent le problème, il y a croire et croire. Enfin, si, croire à lui, c'est toujours, on l'a vu depuis le début, n'est-ce pas, ils ne se fiaient pas à eux, hein, à la fin de l'épisode du Temple, n'est-ce pas. Parce que si on croit sur l'extraordinaire, ça ne tient pas. Ce n'est pas ça, être engendré de Dieu. Hein. C'est être séduit par une idole, quelque part. Donc maintenant, personnellement, bon, c'est aussi évidemment un verset qui est très discuté. Qui sont ces Juifs qui croyaient à lui? Eh bien, personnellement, alors, je dis, c'est d'abord des gens qui adhèrent jusqu'à un certain point à sa personne, qui sont sur un chemin de foi. Est-ce que ce sont des crypto-chrétiens à la manière de Nicodème ou des juifs qui, tout en étant fascinés par la personne de Jésus, continuent à confesser seulement leur foi juive? Je n'entre pas dans des questions de groupe sociologique, hein. J'entre surtout dans la dynamique spirituelle et théologique qui est tracée et où l'on voit les propos de Jésus s'affiner à mesure qu'il y a un mouvement d'adhésion à lui, mais qui n'est pas celui qu'il attend. Et donc, il creuse. Si vous demeurez dans la parole la mienne, vraiment, vous êtes mes disciples. Et le verset 32 est le verset central de toute cette controverse, qui est un diamant, n'est-ce pas ? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. C'est d'autant plus important que le vocabulaire de la liberté, de la libération, est rare. C'est plutôt un vocabulaire paulinien. Le vocabulaire de la liberté, de la libération, est plutôt rare chez Jean. Mais voilà, hein, c'est un parfait chiasme, hein. Verbe, complément, sujet, et le même complément devient sujet et du verbe qui suit. Vous connaîtrez la vérité, et il dira au chapitre 14, hein, un autre diamant du quatrième évangile, « Moi je suis le chemin et la vérité et la vie ». Et nous avons vu dès le prologue, la vérité dont il s'agit, c'est une vérité relationnelle plus que conceptuelle, hein. C'est la vérité de la personne de Jésus dans sa relation au Père et dans son incarnation à l'égard d'autrui. La vérité vous rendra libre. Ils répondirent en direction de lui. Alors voilà, ça c'est de nouveau classique et c'est à ça qu'il faut être sensible. On arrive à un point culminant de la révélation, il faut dire ça, n'est-ce pas ? Et c'est un plof, n'est-ce pas ? C'est descendance d'Abraham, nous sommes. « Personne nous n'avons servi jamais. Comment, toi, dis-tu, que libre vous deviendrez ?» Donc, pourquoi ? On ne sait pas. C'est comme ça que ça se passe. Le message n'est pas passé. C'est bien le signe qu'il y a une certaine foi, mais qui s'arrête en route. « Amen, amen, je vous dis que tout qui fait le péché... » Et de nouveau, sans condamner personne, c'est une sorte de principe général. Serviteur, il est du péché. Il faudrait traduire esclave, doulos. Hein? Il est du péché. Le serviteur ne demeure pas dans la maison à jamais. Le fils demeure à jamais. Si donc le fils vous libère, ainsi libre vous serez. Je sais que descendance d'Abraham vous êtes, mais vous cherchez à me tuer. Parce que la parole, la mienne, ne pénètre pas en vous. Logos, la parole, mon logos, le logos qu'il est. Il n'a été défini, Jésus, comme logos que dans le prologue hymnique, n'est-ce pas ? Mais enfin, ici, voilà, hein, il parle en tant que logos, que la parole de l'origine. Alors, voilà, n'est-ce pas ? Ce que moi j'ai vu d'auprès du Père, je l'adresse, et vous donc ce que vous entendîtes d'auprès du Père, mettez-vous à le faire, faites-le. Montrez de quelle paternité vous relevez. Et donc c'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, vous cherchez à me tuer. Hein. Alors, il y a aussi tuer et tuer, n'est-ce pas ? Il y a des paroles homicides. Il y a des paroles qui, quand elles ne vont pas dans le droit fil de la confiance en l'autre, ne créent pas, ne donnent pas la vie. C'est à tout cela que le texte rend sensible. Notre père Abraham, il est. Et donc, vous voyez, là, de plus en plus, il avait déjà été question d'Abraham dans le chapitre 7 à propos de la circoncision. Mais ici, c'est vraiment la question, n'est-ce pas, Abraham ou le père ? Notre père, oui, notre père Abraham, il est. Si, enfant d'Abraham, vous êtes les œuvres d'Abraham, vous faites, en réalité, vous cherchez à me tuer, un homme qui vous a adressé la vérité que j'entendis d'auprès de Dieu. Ceci, Abraham, ne le fit pas. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Donc, c'est quand même un tour de force, n'est-ce pas ? Il déploie les implications de ce qui est en jeu, sans condamner personne. Il met en face de ce qui est en train de se dérouler, n'est-ce pas, pour justement favoriser la foi-confiance. Nous, de prostitution, nous ne fûmes pas engendrés. Ah, on retrouve le verbe de l'engendrement, qui était le verbe utilisé pour l'engendrement de Dieu, appliqué aux croyants au cœur du prologue hymnique. Un unique Père nous avons, Dieu. Si Dieu, votre Père, il l'était, vous m'aimeriez, car moi, de Dieu, je sortis et je suis arrivé, et à partir de moi-même, je ne suis pas venu, mais celui-là m'envoya. À cause de quoi la parole adressée, la mienne, vous ne la connaissez pas. Donc, l'alia, la parole adressée, hein, le logos et l'alia. L'alia. Donc, du verbe l'alein, qui a toujours une petite valeur de révélation, en plus de l'egein, dire, parler. Vous ne pouvez pas entendre la parole, on y revient, le logos. La mienne. Et alors, chers auditeurs, chères auditrices, attention, nous arrivons dans le verset considéré comme le ferment de l'antisémitisme johannique et de l'antisémitisme chrétien dans l'histoire. Alors, on va s'expliquer quand même un petit peu là-dessus, parce que l'enjeu est considérable, et il est interprété de manière, évidemment, comme vous pouvez le penser, très contrasté d'après les options que l'on peut adopter pour justement l'interprétation. Vous, du Père, le diable, le diabolos, le diviseur, vous êtes. Il ne dit pas vous êtes le fils du diable. On le dit toujours ça. Il dénonce la paternité, la cause du péché. Et les désirs de votre père, vous voulez les faire. Alors, il ne continue pas à parler d'eux. Il va parler pour la première fois, et sans doute de la manière la plus longue dans tout l'Ancien Testament, sur ce fameux diviseur. Celui-là, Anthropoktonos, c'est un apax du Nouveau Testament, tueur d'hommes, homicide. Il était aparkès, du commencement. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il prenne la place du commencement, d'où l'importance du rappel quelques versets précédents, n'est-ce pas ? Qui es-tu ? Le commencement. Il n'y en a qu'un. Mais, ça c'est une expression que je dois aussi à Beauchamp, n'est-ce pas ? Le péché et l'auteur du péché ne peut absolument pas se substituer à l'origine qui est bonne. De toujours à toujours. Donc, attention, hein, cette affaire du péché originel, ça nous a joué des tours, n'est-ce pas ? Le péché n'est pas à l'origine, il ne peut pas l'y être. À l'origine, il n'y a que la parole positive, le don. Mais alors, Ça, toute la Bible le dit, et c'est au cœur du paradoxe de la foi autour duquel tourne continuellement le texte. Le péché est aussi près que possible de l'origine. Voilà. Mais il ne se confond pas avec lui. Et c'est lui le grand responsable de la mort. Et il n'y a qu'une seule mort à craindre, c'est la mort spirituelle, l'incrédulité. Et dans la vérité, il ne s'est pas tenu. Donc, alors, immédiatement après, parce qu'il n'est pas de vérité en lui. Donc, voilà, nouvel exemple, Jésus est le commencement, il est la vérité, hein, et son contraire ne peut absolument pas être au même plan, mais enfin, il lui est connexe. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. C'est pas la fausseté, c'est pas une question de logique rationnelle, c'est une question de logique existentielle, pourrait-on dire. La vérité, c'est ce qui tient, le mensonge, c'est ce qui ne tient pas. La vérité, c'est, disons, la réalité. Le mensonge, c'est l'idole. C'est le faux-semblant. Chaque fois qu'il adresse le mensonge, il l'adresse de ses choses propres, parce qu'il est menteur et, alors, difficile à rendre, littéralement, n'est-ce pas, son père. Alors, on peut se demander, père de qui, de quoi? Ah ben, le contexte dit, père du mensonge ou du menteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une réalité qui se détruit elle-même. Ça, l'Apocalypse va le dire d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Le mal se détruit lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'en dégage? D'abord, que c'est un des plus longs versets de tout le quatrième évangile. Et qu'on ne cite habituellement que à partir de la première proposition. Hein, à cause vous du Père, le diable, vous êtes. Et en général, on la cite mal. On dit, voilà, le quatrième évangile fait des Juifs les fils du diable. Non ? Dénoncer l'auteur du péché, c'est faire acte de miséricorde et permettre de s'en dégager, de s'en détacher, de prendre distance, de prendre recul par rapport à lui. Donc, c'est le contraire de la condamnation ou de l'accusation. C'est le déploiement dans des mots de la vérité, en contraste avec le mensonge qui lui est opposé. Et loin d'être antisémite ou ferment d'antisémitisme, c'est exactement le contraire. Hein ? Déployer autant que faire se peut, parce que cela reste un mystère. Le mystère du mal, c'est se donner le moyen de ne pas y céder.
Il faut du temps pour intégrer ça, donc je vous laisse ça, voilà.
Moi, parce que la vérité, je la dis, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc au sujet de péché? Alors ça, c'est quand même, c'est ça la révélation. Hein, un dans le monde et dans l'histoire n'a été que lumière, vie, vérité. C'est lui. Si la vérité, je la dis, à cause de quoi vous ne me croyez-vous pas? On ne sait pas. C'est comme ça. Celui qui est de Dieu, les mots de Dieu, c'est tout un vocabulaire là. La parole adressée, les mots, ta rémata. Hein, on pourrait rendre peut-être avec les mots efficaces. Hein, réma, c'est, voilà. À cause de ceci, vous n'entendez pas parce que de Dieu, vous n'êtes pas.
Ben, il n'y a qu'une seule chose à faire dans ces cas-là, c'est d'essayer de se mettre soi-même à l'écoute. C'est pas de se demander de qui il parle. Il parle de chacun de nous qui nous mettons à l'écoute de cette parole. Sinon, alors, on cherche le bouc émissaire. On cède à une lecture violente du quatrième évangile en cherchant le coupable. Mais le texte dit, nous sommes tous pécheurs, mais tous appelés à la conversion. Et il ne s'agit pas de juifs qui croient ou qui ne croient pas, de groupes sociologiques. Cela traverse la conscience de chacun. En quoi il y a révélation d'une bonne nouvelle. Et on arrive au bout, donc je conclue quand même, c'est pas mal, je n'espérais pas y arriver. Dernière séquence, 8, 48 à 59. Alors, voyez, quand même, ils répondirent, les Juifs, et ils lui dirent, mais quiconque aurait répondu de cette manière-là, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Et les Juifs en question, c'est autant les chrétiens que les Juifs en tant que groupe sociologique, c'est ça qui est à comprendre. Sinon, alors, en effet, ça devient vraiment très problématique. Ne disons-nous pas bien, nous, qu'un Samaritain tu es, toi, et un démon tu as? Alors ça, c'est fort. Donc, et ça, on est en pleine anticipation de la passion, parce que c'est ça qui va se réaliser dans la passion et de la mort en croix, n'est-ce pas? Il est la lumière, il est la vérité, et on lui dit, tu as un démon. Il vient de dissocier le diabolos, le mensonge, le père du mensonge, de la vérité qu'il est, et on le taxe d'être de celui même dont il vient de parler comme de celui qui est radicalement opposé à ce qu'il est, le démon. Un démon, c'est pas le diabolos, enfin on n'en est pas loin. Et ça, on le voit aussi, bon, j'en déploie ça. Mais enfin, c'est par Beelzeboul que tu chasses les démons, n'est-ce pas? Il y a quelque chose là qui est au cœur du drame du Christ. Moi, de démons, je n'en ai pas, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez, c'est le contraire. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il est celui qui cherche et celui qui la cherche ma gloire et celui qui me juge, le Père. Si quelqu'un ma parole, il la garde, la mort, il ne la contemplera pas à jamais. À jamais. Nous mourrons tous. On verra ça aussi, on pourrait le voir plus longuement dans Lazare, n'est-ce pas? Mais mourir à jamais. L'Apocalypse va distinguer, mais il faudra du temps, mais c'est déjà dans le corpus de l'Évangile, la première et la seconde mort. La première, la mort physique, moi je pense qu'elle fait vraiment partie de la condition mortelle, n'est-ce pas? Donc c'est aussi une discussion, un sujet de discussion. Mais il n'y a qu'une mort à craindre, c'est la mort spirituelle qui nous prive de l'engendrement de Dieu, de la vie de Dieu. C'est ça qui est en question. Et vous voyez, donc, encore une fois, ça va revenir aussi dans les textes les plus, comment dire, tendus du discours de la scène, n'est-ce pas? Il y a toujours une espérance. Si quelqu'un, ma parole, il la garde, la mort, il ne la contemplera pas, à jamais. Toujours une porte ouverte à l'espérance. Alors, voilà, il y a un endurcissement progressif, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons connu qu'un démon, tu as. Donc, pas moyen de discuter, on voit bien. Il fait une sorte de surplace et on s'enfonce de plus en plus. Abraham mourut, les prophètes, toi tu dis, si quelqu'un, ma parole, il la garde, il ne goûtera sûrement pas la mort à jamais. Voilà, ils n'ont pas compris la différence entre mort et mort. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es tout de même pas, toi, plus grand que notre père Abraham, lui qui mourut, les prophètes moururent. Qui te fais-tu toi-même? Voilà, ça c'est le grand chef d'accusation. Il se dit fils de Dieu, il se fait Dieu. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien.
Il est mon Père, celui qui me glorifie, que vous vous dites, notre Dieu, il est. Vous ne l'avez pas connu. Moi, je le sais. Si éventuellement je dis que je ne le sais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le sais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, exulta. Je traduis très littéralement. Hein, qu'il voit le jour le mien, il le vit et il se réjouit. Et vraisemblablement, il y a un jeu de mots là derrière. Hein. Yitzhak, le fils d'Isaac, c'est le rire. Hein. D'où le rire de Abraham et de Sarah, n'est-ce pas ? Abraham, votre père, exulta à la vue de mon jour, hein, traduit-on habituellement, il le vit et il se réjouit. Donc, voilà, ça c'est l'argument majeur du quatrième évangile par rapport à l'Ancien Testament. Jésus est présent dans les grandes figures de l'Ancien Testament parce qu'il est l'origine, parce qu'il est la parole de commencement. Donc, il est dans la révélation de Dieu son Père tout au long de son propre peuple. 50 ans, tu n'as pas encore, et tu as vu Abraham. C'est aussi un des arguments pour dater hein, le moment, hein, l'âge de Jésus. Mais ce n'est pas d'abord de cela qu'il s'agit, c'est une sorte de proverbe. Hein. Amen, amen, je vous dis. Avant qu'Abraham devienne, donc il y a une grande rigueur, hein. Le verbe devenir que nous avions vu en contraste avec le verbe être dès le prologue hymnique revient ici, avant qu'Abraham, dans l'histoire, parce que Abraham c'est celui qui ouvre l'histoire du salut, hein, avec l'histoire de l'élection, avec l'histoire des patriarches, avec l'histoire d'Israël, n'est-ce pas, notre père à tous, hein, trois monothéismes comme on dit trop facilement peut-être, mais enfin... Avant qu'Abraham devienne, moi je suis. Voilà. Alors, voilà, 59. Ils enlevèrent donc des pierres pour qu'ils les jettent sur lui. Ce donc est absolument étonnant, n'est-ce pas ? Mais voilà. Il obtient l'effet exactement contraire que ce qu'il a cherché. Afin qu'il les jette sur lui. Donc, voilà. C'est pour ça que je crois qu'il est important de garder aussi l'épisode de la femme adultère, hein, sur laquelle on est prêt à jeter des pierres au début du chapitre 8. Ben, il devient lui-même l'objet de cette tentative de lapidation. Il fut caché. Il fut caché. Il se cacha. Enfin, il fut caché. C'est un passif. Hein. Quand on ne sait pas très bien l'auteur de ce passif, on dit en exégèse, c'est un passif divin. Hein. C'est comme s'il est caché par le Père, n'est-ce pas, qu'il écarte. Et il sortit du temple, ce qui fait aussi admirablement conclusion avec 8.1. Nous faisons une pause maintenant. Merci de votre attention dans un texte austère. Merci d'être revenu dans de bons délais. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait, ouvrir cette séance, la deuxième partie de cette séance, par la conclusion de la vie publique, pour être sûr de vous dire ce que je veux vous dire sur cette conclusion en vue de la semaine prochaine. Et donc, je vous dis quand même que nous essayerons de voir quelque chose de la dynamique de 9.1, 10, 39, donc qui suit immédiatement ce grand texte de controverse. Après ce que nous sommes dit, n'est-ce pas, je me disais, il y a là vraiment une théologie de la croix, avant la croix. C'est une théologie de la croix, du mystère du salut par la croix de celui qui est seul capable de nous sauver du péché parce qu'il en est totalement indemne. Mais donc, 9, 1, 10, 39, l'aveugle-né et son rapport au peuple, qui est de nouveau centré sur l'adoration, et c'est ce qui fait de ce chapitre, de ces deux chapitres, qu'il faut, me semble-t-il, vraiment maintenir ensemble, le parallèle de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, au chapitre 4, central des chapitres 1, 19 à 6, 71, et déjà lui-même, ce chapitre 4, centré sur les 10 occurrences du verbe « adorer ». C'est le même verbe qui revient pour l'adoration de l'aveugle guéri au cœur de 1, 10 à 39. Puis, alors ça de toute façon, nous n'aurions pas la possibilité de le voir, il y a ce qui est tout à fait propre au quatrième évangile, le dernier signe, mais il n'est même pas défini comme signe. Donc c'est ça qui est quand même toujours un peu intriguant, du retour à la vie de Lazare. Je préfère ne pas parler de résurrection pour ne laisser planer aucune ambiguïté. Lazare ne ressuscite pas comme seul Jésus est capable de ressusciter une fois pour toutes vainqueur du péché et de la mort. Il revient à la vie et c'est pour mourir encore. Donc attention. Et cette séquence de Lazare est enclose dans, disons, ce qu'on appelle l'inclusion entre la prolepse, l'annonce de l'onction à Béthanie au début de cette séquence et sa réalisation. L'onction à Béthanie arrive en conclusion de cet épisode en 12, 1 à 11. C'est pourquoi je l'appelle Lazare de Béthanie. Ce n'est pas la Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. C'est la Béthanie à quelques, bon, peut-être 1 ou 2 kilomètres de Jérusalem, n'est-ce pas, là où habite Lazare et ses deux sœurs. Le signe de Lazare est souvent considéré à l'heure actuelle par pas mal d'interprètes comme l'épisode central du quatrième évangile, précisément parce qu'il annonce à son tour le mystère pascal, à travers, disons, la situation de quelqu'un comme cet ami Lazare que Jésus chérit, qu'il aime beaucoup, n'est-ce pas, son nom, son ami Lazare. Lazare va aussi loin que possible dans un chemin de maladie qui le confine à la mort, mais il en revient pourtant, il faut qu'il y ait des conditions pour qu'il revienne, et donc, pour beaucoup, c'est un peu le pivot de tout le quatrième évangile. Eh bien, à force de reparcourir l'évangile, je crois quand même que c'est un épisode très important, certainement, mais l'épisode avec l'aveugle-né est encore plus important et me semble à favoriser comme vraiment le cœur de cette section de 7 à 10, où l'on voit, pour le dire très rapidement aussi, n'est-ce pas, le seul à prendre à son compte l'expression privilégiée par Jésus pour parler de lui-même, « Moi, je suis ». Donc nous avons avec, pour le dire très rapidement, si nous avons le temps, nous reviendrons sur quelques détails, mais l'aveugle d'engendrement, c'est le terme qui est employé, est le type du croyant qui est engendré de Dieu et qui, par le fait même, voit, accède à la lumière. Et ce qui est très important, c'est qu'il est aussitôt introduit, alors qu'il est mis au banc de la communauté juive officielle, introduit mieux que quiconque dans la communauté des croyants en Jésus. Mais le chapitre 10 montre très bien que on ne croit jamais seul. Croire en étant engendré de Dieu, c'est nécessairement faire partie d'une communauté. Voilà. D'où alors tous les développements sur le bon pasteur qui est à la fois la porte et celui qui dirige les brebis. Voilà. Nous essaierons de peut-être revoir quelques points fondamentaux à grandes enjambées, mais je veux quand même, compte tenu de tout ce que nous nous sommes déjà dit sur le chapitre 8 en particulier, en arriver tout de suite à la fin de la vie publique. Donc après ces deux grands épisodes, avant-dernier signe, l'aveugle de naissance qui est engendré de Dieu et qui est le prototype du croyant, qui peut dire à son tour « moi, je suis ». Je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Le croyant, c'est un autre Christ. Il est engendré à la vie de Dieu comme le Fils lui-même est en relation avec le Père. Puis il y a Lazare de Béthanie et ça se termine mal dans l'un et l'autre cas, n'est-ce pas ? Et même le paradoxe de nouveau par excellence rejaillit avec le retour à la vie de Lazare. Celui qui ramène à la vie est condamné à mort lors de la réunion du Sanhédrin qui prend la décision de l'exclure, il faut qu'un seul meure pour le peuple. Pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Suivent alors en rang serré l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem et un certain nombre d'épisodes qui sont liés à cette approche de la troisième Pâque. Et je voulais être sûr de ne pas louper la fin de la vie publique, en particulier à la lumière de l'Écriture et en particulier d'Isaïe, pour appuyer ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce qui se passe dans l'Évangile selon Jean est appuyé par l'Écriture. C'est vraiment une théologie du rapport de l'un à l'autre testament. Et je prends donc la dernière page de la traduction dont vous disposez, de Jean 12 à 12, 50, c'est-à-dire la page 58, les versets 37 à 50. Pour appuyer par des textes ce qui est encore resté sur le mode de l'allusion, n'est-ce pas ? Mais enfin, avant qu'Abraham, moi, je suis, avant qu'Abraham devienne, moi, je suis, c'est quand même déjà extraordinaire comme vision de la réalité. Tant de signes, lui, en ayant fait devant eux. Et on retrouve le verbe, ce sont des termes techniques. Jésus a fait des signes, c'est-à-dire il a révélé son autorité sur la création, parce que le verbe faire est un verbe qui évoque la création. Poiein, c'est la traduction grecque de l'hébreu bara au début de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre, il fit le ciel et la terre, traduit la Septante. Tant de signes, lui, en ayant fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Il ne s'agit pas que des Juifs. Il s'agit, en quelque sorte, du résultat de sa mission dans le monde qui aboutit à un échec, l'incrédulité. Tout est en fonction de croire dans le quatrième évangile et ça se solde par le non-croire. Bon, et alors, d'une part, ces auteurs ne se privent pas de le dire. Hein. On ne cache pas ça. Hein. On ne dit pas, vous savez, ça n'a pas tellement bien marché, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont suivi. Non. Ça, c'est tout à fait genre massif, n'est-ce pas ? Ils ne croyaient pas en lui. Alors, comment s'expliquer là-dessus ? Jusqu'à un certain point, non pas maintenant, pas en cours. Eh bien, j'ai dit page 58, 12, 37 à 50. Dernière page de la traduction du chapitre 12, 12 à 50. D'accord ? Excusez-moi. Donc, il ne croyait pas en lui. Alors, le paradoxe de l'incrédulité est jusqu'à un certain point incompréhensible, comme le mal, hein, comme le péché. Paul en parle d'un mystère d'iniquité en 2 Thessaloniciens 2, 7. Hein, texte sur lequel nous reviendrons à propos de Jean 17. Hein. Donc, vous savez, depuis le début de la philosophie, en particulier depuis la tradition chrétienne aussi, on a évidemment essayé de chercher l'origine du mal, on a essayé de s'expliquer depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le mal est incompréhensible. C'est ce qui fait parfois qu'il est pathogène, qu'il est anxiogène, précisément parce qu'on ne peut pas l'expliquer, ça. Et plus on essaye de s'expliquer, plus on se fait mal parce qu'on n'y arrive pas. Donc, et cependant, l'auteur ici ne renonce pas à essayer de comprendre ce qui serait quand même encore compréhensible de cette incrédulité face à la vie, face à la lumière, face à la parole qui est à l'origine et au terme de tout, et qui se solde par une non-écoute, hein, une non-réception du message. C'est afin que la parole d'Isaïe, le prophète, soit accomplie. Donc, l'accomplissement de la parole d'Isaïe, le prophète, l'accomplissement de l'Écriture, c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament, essaye de rendre compte jusqu'à un certain point du mal, de l'incrédulité. Le concept d'accomplissement de l'Écriture naît dans le contexte des apocalypses, en Daniel, dans les martyrs d'Israël, qu'on relit ces jours-ci comme première lecture de la liturgie de la parole à l'Eucharistie. Donc, voilà. L'accomplissement de l'Écriture cherche à rendre compte de cette énigme de ce que doivent souffrir les croyants pour leur Dieu. Et le premier texte qui est cité d'Isaïe le prophète, qui est le prophète par excellence, c'est celui qui arrive en tête de tous les autres dans le corpus prophétique, d'abord parce que c'est le plus long, et puis pour le quatrième évangile, parce que c'est le prophète du croire, c'est le prophète de la foi. Eh bien, ni Isaïe, ni ses disciples n'ont été crus. Et la citation qui est faite du quatrième chant du serviteur, ici 53.1, le fameux grand chant du serviteur souffrant, 52.13, 53.12, hein, c'est facile à retenir, il y a un mnémotechnique là, hein, 52.13, 53.12, la citation qui en est faite ne parle pas d'abord du serviteur, hein, mais des disciples du serviteur. Qui a cru à notre annonce, traduit-on souvent, n'est-ce pas ? Par exemple, je prends la Bible de Jérusalem en 12.38, on vous dira, Seigneur, qui a cru à notre parole et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé ? Oui, mais c'est plus nuancé encore, c'est pas croire à notre parole, c'est ne pas croire en n'entendant pas. ce que les disciples, à la suite du prophète, disent dans leurs propres paroles. Et le bras du Seigneur à qui fut-il révélé ? Donc cela ne porte pas d'abord sur l'incrédulité à l'égard du message du prophète. Ça, on va y revenir après à propos de sa vocation. Mais ce qui est remarquable ici, c'est l'évocation du verset dans ce grand chapitre du serviteur souffrant qui parle plus de l'échec de la prédication des disciples du prophète que de la prédication du prophète lui-même. Parce que c'est lié. Si le prophète n'a pas été cru, les disciples ne le sont pas davantage. Et donc, qu'est-ce qui joue ici, n'est-ce pas ? Ce qui joue, c'est une application de ce phénomène-là à l'incrédulité dont Jésus est l'objet, mais aussi à l'incrédulité de la parole évangélique qui répercute les paroles et les faits de Jésus. Et c'est ça qui est remarquable, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que le prophète à ne pas avoir été cru. Ses disciples ne l'ont pas été davantage. Il n'y a pas que Jésus à ne pas avoir été cru. Les disciples ne l'ont pas été davantage. Donc, grande leçon de l'Ancien Testament, la parole de Dieu n'est pas crue quand elle est annoncée par ses envoyés. Donc, c'est déjà une sorte de dédramatisation. Alors, c'est peut-être pas très consolant, mais enfin, ça fait réfléchir. Il en a toujours été ainsi. Et dans le contexte que nous vivons, on peut se rappeler ça. Moi, je pense que chaque fois que nous sommes envoyés à annoncer la parole, nous faisons l'expérience de ne pas être reçus. Eh bien, c'est tout à fait normal. Et c'est plutôt bon signe. Ignace de Loyola, il vous dit ça dans les règles du discernement, n'est-ce pas ? Si tout va bien, posez-vous un peu la question de savoir si vous faites bien tout ce que vous faites. Si vous n'avez pas, par exemple, si votre parole est trop bien reçue, demandez-vous si vous ne l'avez pas quelque part un peu altérée, hein, si ça passe si bien. Non, ça ne doit pas bien passer. Bon. À cause de ceci, il ne pouvait pas croire. Il renchérit. Donc, c'est quand même un texte majeur, hein, le quatrième chant du serviteur. Et on va y revenir à propos du chapitre qui vient ici maintenant. Parce que de nouveau, il dit Isaïe, mais ce qui est curieux, c'est que la fin du second Isaïe, comme on dit habituellement, n'est-ce pas, est citée avant pratiquement le début du premier Isaïe. On revient au chapitre 6 de la vocation d'Isaïe. Et qu'est-ce qu'on en dit ? De nouveau, il dit Isaïe. Alors, attention. Isaïe 6, 9, 10. C'est la conclusion de la vocation d'Isaïe au temple. Hein, où on a... Bon, on pourrait reprendre, mais je vais le reprendre, tiens, rapidement, n'est-ce pas ? Parce que ça vaut la peine. Que dit l'ensemble de Isaïe 6 ? En texte que nous reprenons chaque fois aussi dans l'Eucharistie avec le Saint, 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 n'est-ce pas ? L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé, sa traîne emplissait le sanctuaire, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. L'assemblée de Dieu. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, saint, saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ces cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi Sabaoth. C'est déjà aussi le paradoxe de la foi. Je suis pécheur et cependant le Dieu trois fois saint veut bien se révéler à moi, et à moi qui vis dans un peuple, dans une communauté, parce que ce n'est pas possible autrement. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi ?» Et je dis, c'est le prophète qui parle, « Me voici, envoie-moi. » Alors, les versets suivants, vraisemblablement, supposent toute cette vocation exécutée par Isaïe, mais qui se solde par ce que l'on a appelé la vocation à l'endurcissement. Il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu, il a invité à croire et on n'a pas cru. Va, et alors, dis à ce peuple-là, écoutez pour écouter et ne comprenez pas. Voyez pour voir et ne connaissez pas. Engraisse le cœur de ce peuple-là et ses oreilles apesantes il est. Et ses yeux englulaient le cœur, les oreilles, les yeux. Anthropologie charnelle, pourrait-on dire, corporelle. De peur qu'il ne voie de ses yeux, que de ses oreilles il n'écoute, que son cœur ne comprenne. Alors, attention maintenant à la conclusion, qui est en général mal traduite, et qui ne laisse aucune espérance, et c'est ça qui est dramatique dans ces traductions, et il se tournera, et guérison pour lui, le texte hébreu le dit. Et pour le faire comprendre immédiatement cette espérance en une guérison, en une conversion, mais qui est le secret de Dieu, ceci se retrouve dans le quatrième chant du serviteur, le serviteur souffrant. Par ses blessures, nous sommes guéris. Donc dans le livre d'Isaïe, il y a une postérité à cette espérance d'une conversion pour le peuple. Et c'est ça qu'il ne faut pas court-circuiter. Sinon, vous enfermez l'incroyant dans son incrédulité et il n'y a plus d'espérance possible. Et comment comprend la Septante, la traduction grecque? Avant, c'est dit à ce peuple-là, d'entente, vous entendrez, et certes non, vous ne comprendrez pas. Regardant, vous regardez, et certes non, vous ne verrez pas. Car il a été engraissé le cœur de ce peuple-là, et de leurs oreilles lourdement ils entendirent, et leurs yeux ils les engluèrent, de sorte qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et de leurs oreilles ils n'entendent pas, et que leur cœur, de leur cœur ils ne comprennent pas, et qu'ils ne se convertissent pas. Donc, attention, et je les guérirai. Et c'est le texte qui est cité par Jean. Le seul texte qui fasse le plus de difficultés à ce sujet, c'est dans Marc, où il semble que, voilà, même... il n'y a pas de guérison possible. Que retient le texte johannique de Isaïe 6, 9, 10 ? Il a aveuglé leurs yeux, il endurcit leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux et ne pensent pas du cœur et ne se convertissent pas. Et je les guérirai. Louis est en quelque sorte passé sous silence. Et donc, le point fondamental, c'est que dans la vocation même du prophète est inclus le refus de croire, parce que c'est ce qu'il a vécu. À condition aussi de maintenir dans cette incrédulité une possibilité connu de Dieu seul, de guérir son peuple. ces choses, il les dit Isaïe parce qu'il avait vu sa gloire et qu'il avait adressé la parole à son sujet. Donc, sa gloire, c'est la gloire même du Fils. Donc, pour le quatrième évangile, il n'est pas si étonnant ou si dramatique ou tragique que la vie publique de Jésus se solde avant même sa passion et sa mort en croix par une incrédulité généralisée. Et alors, on pourrait se dire, ah oui, mais il y a quand même les disciples. Ben, nous allons voir la prochaine fois, n'est-ce pas? Et si j'ai demandé à Madame Hernandez de venir nous parler, c'est parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. L'élévation des disciples, oui, mais à quel prix? Au prix d'une incompréhension généralisée avec la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Alors, allons-y, n'est-ce pas? Toutefois, cependant, c'est très nuancé, aussi d'entre des chefs, des responsables, beaucoup crurent en lui. On risque d'oublier ça. Mais à cause des pharisiens, ils ne confessaient pas, ce qu'on a appelé les crypto-chrétiens. Ils ne confessaient pas publiquement. Afin qu'exclus de synagogue, ils ne deviennent pas, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et donc, voilà qu'on arrive avec ce fameux terme « exclus de synagogue » à un point capital dont je voulais vous entretenir à propos de la guérison de l'aveugle. Les parents de l'aveugle n'osent pas trop se prononcer par crainte des Juifs, parce que ceux qui adhèrent à Jésus, exclus de synagogue, ils deviennent. Je vous ai photocopié, pas plus tard que ce matin, parce que je me dis, il faut absolument que vous disposiez de... Ça, c'est un des grands enjeux de l'exégèse actuelle du quatrième évangile, et on est encore en pleine ébullition, n'est-ce pas ? L'exclusion de la synagogue. Jean est le seul à utiliser ce terme. Aposynagogoi. Et c'est ce que vit l'aveugle-né. Parce que il est guéri, il est jeté dehors. Et ça, ça ne plaît pas à Jésus, n'est-ce pas? Toute exclusion est contraire, en quelque sorte, à Dieu lui-même. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui élit dans l'amour. Et chaque fois, un par un, de manière très personnelle. Exclure, c'est toujours très, même dans l'Église, attention, n'est-ce pas ? En général, finalement, on se met soi-même en dehors de la communauté. Et une hérésie ou une excommunication ne fait que, la plupart du temps, entériner une situation de fait. Enfin, voilà, on comprend que Benoît XVI est tout fait pour essayer quand même de ramener un peu... dans le bercail, n'est-ce pas, les intégristes, il n'y est pas arrivé. Donc, l'exclusion de la synagogue. Alors, c'est encore en plein débat, n'est-ce pas? En général, jusqu'à il y a peu de temps, en particulier jusqu'à l'œuvre de Daniel Boyarin, on disait, tout ça remonte... à l'époque de l'assemblée de Yavné, tout près de Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv, Jamnia en grec, où après la destruction du temple, fin du 1er, début du 2e siècle, le judaïsme officiel, d'inspiration pharisienne, se recentre sur la Torah. Et à ce moment-là, les juifs... qui adhèrent à Jésus comme Messie d'Israël, ne sont plus personnes égratées. Et c'est l'époque aussi où fleurit cette fameuse 12e bénédiction, la bénédiction des hérétiques, qui est en fait une malédiction plus qu'une bénédiction, et dont je vous ai reproduit les termes avec traduction à l'appui et quelques explications sur la feuille qui a été distribuée à l'entrée aujourd'hui. Alors, de plus en plus, on distingue l'assemblée de Yahvé, Yavné et Jamnia et cette fameuse bénédiction des hérétiques, des minimes. Hein, et aux hérétiques, on associe aussi les Notsrim, qui ne peuvent pas ne pas faire penser aux Nazaréens, hein, et donc aux chrétiens. Alors, à l'heure actuelle, surtout sous l'inspiration des travaux de Boyarin, qui est un historien, un théologien juif très ouvert, hein, très impliqué dans le dialogue judéo-chrétien. Il a publié un livre traduit par Marc Rastoin, « Le Dieu juif hein, », le Christ juif, pardon, hein, tout récemment, en septembre, c'est sorti cet été, n'est-ce pas ? Très intéressant, donc quelqu'un de très ouvert. Mais il dit, cette assemblée de Yavné Jamnia, c'est quelque chose de beaucoup plus postérieur aux événements de la fin du 1er et du 2e siècle, début du 2e siècle, au moment de la séparation entre juifs et chrétiens. Et cette séparation aurait pu être beaucoup moins radicale qu'elle ne l'a été. Hein. Et bon, à mesure qu'il publie, on voit, n'est-ce pas, il disait 3e siècle, maintenant il va jusqu'au 6e siècle, et il parle d'une légende. Hein. Bon, c'est un savant, jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, on s'incline devant sa compétence et son érudition. Mais, malgré tout, ce qui est un petit peu intriguant quand même, c'est que cette fameuse 12e bénédiction, on en trouve l'attestation dans le Shmoné Esré, les 18 bénédictions encore reprises aujourd'hui dans la prière synagogale de la liturgie juive, n'est-ce pas ? Ce Shmoné Esré, cette 18 bénédictions, et donc la 12e qui implique cette malédiction à l'égard des hérétiques et des Notsrim, des Nazoréens, elle est quand même bien attestée, même avant 70, avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc, il y a quand même bien là l'indice, bon, de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler la séparation des voies. Oui, mais cette séparation, elle aurait peut-être pu être beaucoup moins violente qu'elle ne l'a été. Et un texte comme le quatrième évangile devrait aider justement à bien voir là où il peut y avoir en quelque sorte l'incompatibilité. Hein, mais c'est très délicat. Et en tout cas, c'est un des grands soucis du quatrième évangile d'aller aussi loin que possible dans la compatibilité des confessions de foi juives en un Dieu unique et chrétiennes en un Dieu trinitaire. Et alors, un des grands intérêts des études de Boyarin, c'est de montrer que, bon, ce qui est attesté dans le Nouveau Testament de cette sorte de distinction, hein, sans mettre en cause l'unité de Dieu entre le Fils et le Père, ben, se prépare déjà dans l'Ancien Testament, notamment à travers la distinction entre, il parle moins de cela dans ses derniers écrits, mais par exemple, dans son dernier écrit, le Christ juif, n'est-ce pas, dans le Fils de l'homme qui est distinct de l'Ancien, tout en ne mettant pas en cause l'unité du Dieu d'Israël, hein. À d'autres moments, quand il avait étudié le prologue de Jean dans son livre intitulé, n'est-ce pas, la partition du judaïsme et du christianisme, il dit, ben, déjà, dans l'Ancien Testament, et ça Beauchamp nous y avait beaucoup sensibilisé, il y a avec la sagesse une distinction en Dieu qui ne met en rien en péril l'unicité du Dieu d'Israël. La sagesse, c'est Dieu distinct de Dieu, sans mettre en péril la confession de foi monothéiste. Avec l'intérêt aussi, avec la sagesse, d'avoir une figure féminine. Beauchamp nous disait, n'est-ce pas ? La sagesse, c'est le féminin en Dieu. Bon. Mais donc, à un certain moment, il y a eu cette séparation des voies. C'est certainement le grand enjeu du quatrième évangile, et c'est précisément ce qui se retrouve derrière cette fameuse expression « les aposynagogoi, les séparés de la synagogue. Et c'est ce qui me fait revenir rapidement en conclusion sur les chapitres 9, 1 à 10, 39, n'est-ce pas, avec l'aveugle guéri. Je reviens aussi dès le début du texte, n'est-ce pas, en 9, 1, 23, la page 38, les versets 1 à 7. En passant, là, sans aucune autre détermination de temps ni d'espace, à la différence de la rencontre avec Jésus et la Samaritaine au début du chapitre 4, il vit un homme qui ne voit pas. Un homme aveugle d'engendrement. Et ils interrogèrent ses disciples, disant, « Rabbi, qui pécha, celui-ci ou ses géniteurs ?» Et alors, voyez, sur l'arrière-fond de tout ce que nous avons vu en Jean 8 tout à l'heure, « Rabbi, qui pécha, celui-ci ou ses géniteurs, qu'aveugle il ait été engendré ?» Et je vous mets entre parenthèses, les réminiscences dans Jérémie et Ézéchiel du fameux proverbe en Israël, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées. » Donc, le péché des pères retombe sur les fils. Et Jérémie 31, 29, 30 et Ézéchiel 18, 2 disent « On ne dira plus cela en Israël. » Et c'est dans ce sens-là que Jésus répond, « Ni celui-ci ne pécha, ni ses géniteurs, hein, je garde l'expression un peu rude, mais enfin « gonéis », parce que c'est le même champ sémantique de l'engendrement, mais c'est afin que soient manifestées les œuvres de Dieu en lui. » Donc, voyez, on nous fait passer de toute cette controverse en Jean 8 sur l'auteur du mal qui est distinct du pécheur, pour alors tout orienter aussi dans un sens positif. Ni celui-ci ne pécha, ni ses parents, donc il ne procède ni à une culpabilisation, ni à une sorte d'archéologisation du mal, mais il oriente tout vers l'avenir et l'avenir positif des œuvres de Dieu. Afin que soit manifesté, c'est le verbe de la manifestation de la gloire en conclusion des noces de Cana de Galilée, n'est-ce pas ? Et c'est le verbe de la troisième manifestation du Christ ressuscité en Jean 21, afin que soient manifestées les œuvres de Dieu en lui. Nous, il nous faut œuvrer les œuvres de celui qui me... Il nous, hein, c'est le nous ecclésial, de nouveau, hein, conjugué au « je » de Jésus. Tant que le jour est, vient la nuit, quand personne ne peut œuvrer. Quand dans le monde je suis, lumière, je suis du monde. Donc on retrouve au début de ce grand épisode de l'aveugle, ce qui était également au début de la péricope qui précède avec la conclusion de l'épisode de la femme adultère. Ces choses les ayant dites, il cracha à terre, il fit de la boue du crachat, et il loignit de la boue sur les yeux. Ep et chrysen. Il loignit. Il en fait un Christ. Et il dit, part te baigner vers la piscine de Siloé, ce qui est interprété envoyé. Il s'éloigna donc et il baigna, et il vint regardant. Alors, il est temps de conclure. La suite dit exactement ce à quoi on peut s'attendre avec cette onction des yeux de l'aveugle qui devrait le rendre encore plus aveugle après qu'avant, n'est-ce pas ? C'est un peu paradoxal aussi. Les voisins et ceux qui le contemplaient auparavant parce qu'il était mendiant disaient « N'est-il pas celui-ci celui qui était assis et qui mendiait ?» D'autres disaient, et alors voilà, C'est celui-ci. D'autres disaient, non, non, il lui est semblable. Celui-là disait, ego eimi. C'est bien moi. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Moi, je suis. C'est le seul personnage dans le quatrième évangile qui dise ce que Jésus dit pour se définir lui-même. Et voilà, voilà la clé de tout. Et qui est rend compte aussi de ce qui était dit de l'engendrement de Dieu dès le prologue. L'aveugle d'engendrement, en croyant à Jésus, est engendré de Dieu et accède à la lumière, qui est la lumière même de Jésus en lui. Tout le dialogue ensuite montre que l'aveugle progresse de plus en plus dans la confession de foi, alors que son entourage, au contraire, se rétracte et s'endurcit dans son incrédulité, au point, à un certain moment, de le jeter dehors. Hein ? Au verset 34. Il entendit Jésus qu'il l'avait jeté dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, « Toi, crois-tu dans le Fils de l'homme ?» Il répondit celui-là, il dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» C'était la question de la Samaritaine. Il lui dit Jésus, « Tu l'as vu. » Tu l'as vu, parce que maintenant tu vois. Et celui qui adresse la parole avec toi, il l'est celui-là. Exactement la réponse à la Samaritaine. « Ego eimi ho lalon soi. » Il lui déclara, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Le verbe de l'adoration, 10 fois repris au cœur de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, pour un discernement. Moi, dans ce monde, je vins, afin que les non-regardants regardent et les regardants aveugles deviennent. Renversement de ce discernement de sagesse sapientielle. Ils entendirent. Les pharisiens, ces choses, ceux qui étaient avec lui, et lui dirent, nous ne sommes tout de même pas aveugles, nous aussi. Si aveugles vous l'étiez, vous n'auriez pas de péché. Reconnaître son aveuglement pour recevoir la lumière, c'est se mettre dans la bonne condition du croyant. En réalité, vous dites, nous regardons, votre péché demeure, il ne faudrait pas en déduire, parce que ce serait tout à fait contraire à tout l'évangile que Jésus enferme ses interlocuteurs dans l'incrédulité et dans le péché, parce que, alors, la conclusion de la vie publique le montre, il faut toujours ménager, parce qu'il est la lumière, un principe de conversion possible. Alors, les psychologues qui nous suivent piétinent devant cette porte de cette salle, donc je vous laisse rentrer en vous souhaitant bonne soirée.